Voici un chapitre bien long, mais quel grave d'événement! On vous transporte au gynécée, ou appartement réservé à ces demoiselles, et vous y êtes témoin d'un enchaînement de faits qui nous amène à une conclusion morale qu'exprime Ninon d'une mot vif et désenchanté. Marie Coquelière fut bien plus troublée une fois revenue au château que lorsqu'elle reconnut le chevalier de Degars chez Cornebille. Elle ne parlait jamais de ses entrevues avec le sorcier, parce que celui-ci inspirait l'épouvante, et ce secret lui était si dur à porter qu'elle en avait maigri de 13 livres depuis que cela durait, et que sa figure, auparavant prospère, se plaquait de teinte jaune. Mais ne pas dire qu'elle avait vu le chevalier lui valut une maladie. Et tandis qu'elle était au lit, au milieu de ses étouffements, elle rendit cette nouvelle et respira enfin. On la crut folle. Personne n'ajouta foi à ses sornettes. Cependant, l'idée était si cocasse du chevalier de Degars, croupissant par amour dans la vermine avec l'horrible sorcier Cornebille, que l'on s'en empara comme d'une légende tragicomique, et elle fut longtemps l'aliment des plaisanteries. La nuit même que Château-Bedeau et la marquise roucoulaient, la fenêtre ouverte, le page se plut à renverser le vase de nuit au pied de la muraille par dérision, en disant hautement qu'il compissait le sorcier et le chevalier des contes de Marie Coquelière. Mais Ninon, ayant penché la tête à ce moment, crut voir deux ombres qui fuyaient. Elle pâlit aussitôt et se trouva mal. Pendant le reste de la nuit, elle crut à la vérité de la légende. Mais le jour dissipa les frayeurs superstitieuses de son esprit. La légende avait pénétré dans le gynécée, où il faut vous mener à présent que les maçons en sont partis. Si parfaits qu'eussent été leurs travaux, vous voyez donc qu'ils laissaient transpercer quelques bruits du dehors. Et à la vérité, Marie Coquelière, en qualité d'ancienne nourrice, y jouissait d'un droit de passage. C'était elle-même qui portait le petit déjeuner du matin et servait les autres repas. Hormis elle, le marquis et la marquise seuls, ainsi que le vénérable abbé Puce, devaient, à jours et heures déterminés, franchir la petite porte conduisant aux appartements réservés à Jacquette et à Mademoiselle de Quinconas. De toutes les personnes de la maison, Mademoiselle de Quinconas était l'unique qui osa ne point traiter de baliverne les histoires de Marie Coquelière. C'est qu'elle se souvenait de la rencontre de Cornebille au petit jour dans les allées du labyrinthe et de l'entretien merveilleux de ce lieu ainsi que de la statuette de l'amour, ce qui effectivement pouvait être le fait d'une grande passion. Et Jacquette s'était beaucoup enflammée sur l'aventure, à cause de ce qu'elle contenait le romanesque, ce qui ne lui semblait pas opposé au caractère de son ancien ami, le chevalier de Regard. Et elle disait à Pomme d'Api, « Tu me demandes, ma chère Pomme d'Api, de te raconter l'histoire du chevalier de Tegar. Oh, je n'y vois pas d'inconvénient, parce que tu n'es pas, toi, sur le point de faire ta première communion, mais quand tu seras là, je te préviens que je te renfermerai dans une boîte et sous clé. » Eh bien, voilà, ce jeune homme était tombé amoureux d'une personne d'un rang élevé qu'il ne pouvait pas épouser. Quand un jeune homme est amoureux, à moins que ce ne soit d'une jeune fille à marier, il devient indécent, fut-il le mieux élevé du monde, et a la rage de se promener tout nu. Souviens-toi de la statuette de l'amour. Voilà pourquoi tous nos galants s'enferment et se dissimulent. On nous verrouille, nous, ici, nous autres, afin que nous ne le voyions pas aller ainsi dans la maison. Or, Dieu te garde, ayant connu son état, un jour, de peur de nous scandaliser, s'est sauvé, et depuis ce temps-là, il se cache. C'était un jeune homme très comme il faut. Là-dessus, comme sur tout le reste, chacun bâtit des histoires. Mais ce n'est pas la peine que tu ailles te monter la tête à ton tour. Ma fille, je sais à quoi m'en tenir. L'aile du château affectée depuis des mois déjà, abritait l'innocent de Jacquette, se composait, comme on sait, des anciens appartements de feu monsieur de Meurier de Fontevraud, mais d'abord en partie à la disposition de la gouvernante, puis restaurée, isolée et abandonnée totalement à Jacquette, à mademoiselle de Quinconas et à Pomme d'Api. Vers la fin de l'automne, on permit qu'une chatte s'y établit à demeure pour y détruire les souris d'abord, ensuite pour apporter un peu de gaieté aux solitaires. C'était une chatte noire de poils rares qui avait deux yeux d'un jaune éclatant et l'air d'un diable. Monsieur le curé lui-même la nomma Belzébuth, nom d'un insigne démon. C'est pourquoi Marie Coquelière l'appela aussitôt la belle Zébuth. Vous vous souvenez sans doute que, des fenêtres de cet appartement situé au couchant, l'œil plongeait obliquement dans l'allée des fontaines, terminée par le pin parasol. Que l'on voyait aussi, par-dessus les marronniers, le ventre rond et le haut toit moussu du colombier. Enfin qu'au bas des fenêtres s'étalait un petit parterre à la française, enclos par une grille de fer. C'est ce jardin qui était désormais réservé aux promenades et aux jeux de Jacquette. Encore avait-on fait grimper de hauts lierres sur la grille afin de mieux marquer l'enclos qu'occupaient ces demoiselles au milieu d'une demeure et d'un parc livrés au désordre de la vie profane. Monsieur le curé venait deux fois la semaine donner sa leçon de catéchisme. Monsieur de Chemillet faisait le dimanche à sa filleule, une visite de cérémonie, ainsi que les hôtes du château, tous un peu guindés, rangés en cercle, et ne sachant que dire, à cause du ton châtié qui leur était recommandé. Les jours paraissaient parfois longs dans le gynécée, et Jacquette aspirait avec ardeur à sa première communion, d'autant plus qu'on lui avait promis qu'elle ferait, aussitôt après, son entrée dans le monde, et, selon l'usage du temps, s'y marierait dans un assez bref délai. Quand le vent d'automne faisait courir les feuilles mortes dans l'allée des fontaines, on pouvait voir à l'une des fenêtres du petit parterre une haute personne soufflant une forte buée sur les vitres. C'était mademoiselle de Quinconas. Et sous la gorge opulente qui jouait le rôle d'un baldaquin étoffé, une tête aplatie au front, au nez, et dont la bouche donnait assez bien l'aspect d'un gros et gras limaçon, vu par-dessous et rampant. C'était la tête de Jacquette, déformée pour le plaisir de s'appliquer contre la vitre. Elle demeurait là jusqu'à ce qu'il fût l'heure d'allumer les lampes. Monsieur l'abbé Puce avait fait suspendre la lecture du païen Plutarque, et l'on se contentait du Nouveau Testament ou du catéchisme. Pomme d'Api, qui assistait aux leçons, se montrait à l'égard du catéchisme d'une inaptitude touchant parfois la rébellion. Aussi, Jacquette coupait-elle ses exercices ardus par de grands mouvements d'impatience, voire de colère contre sa fille, et par de divertissements qui consistaient à infliger à celle-ci des châtiments corporels, à la livrer par exemple corps et biens aux griffes de la belle Zébuth, figurant Satan. La belle Zébuth secouait et roulait Pomme d'Api, lui labourait la poitrine de ses ongles fins et mettait ses vêtements en lambeaux. Ces scènes cruelles amusaient énormément Jacquette et trouvaient grâce devant la gouvernante qui se relâchait un peu de sa gravité depuis qu'elle avait recouvré, à l'abri du gynécée, une paix relative. Il faudrait toutefois posséder l'âme cristalline de monsieur l'abbé Puce ou la simplicité de Ninon pour croire bénévolement que le mur élevé entre le château et le gynécée est de taille à barrer la route au subtil et malin fluide qu'est l'esprit du siècle. De même que la belle Zébuth se faufilait par le trou de la chatière ménagée dans la porte de chêne, Ainsi le scandale, par les lèvres candides de Marie Coquelière, pénétra, amenuisé, étiré en longueur, dans la demeure des vierges, et s'y présenta sur ses quatre pieds, noirci d'horreur et d'aspect infernal. Je ne reconstituerai pas le récit de la nourrice auquel nous avons échappé et dont, aussi bien, nous n'avons que faire. Je dis toujours en passant que, pour vous apitoyer sur les misérables moyens dont disposent les familles les mieux intentionnées pour garantir les âmes du feu lascif, par quoi, bon gré mal gré, toute humanité est pour ainsi dire embrasée. Oh, ça n'allait pas croire que la digne nourrice narrerait ses historiettes en plein air et sans souci des oreilles sensibles de Jacquette, non! Elle excellait à employer un langage imagé qui ornait d'un voile richement brodé le sens pernicieux de la vérité. Et elle savait aussi mettre à profit les moments où la fillette était absorbée par les interrogations toujours avides de pommes d'api. D'ailleurs, on couchait Jacquette de bonne heure, et tout au bout de l'immense pièce où flottaient encore les tentures à moulin de M. le meunier de Fontevraud, Marie Coquelière et la gouvernante chuchotaient longuement. Qu'il vous suffise de savoir que la dernière nouvelle était que le marquis redevenait amoureux de sa femme. Ah ! Par exemple, cela est fort bien. Enfin, mademoiselle de Quinconas fermait la porte, tirait le verrou et s'avançait sur la pointe des pieds afin de voir si Jacquette était endormie. Quand elle s'en était assurée, elle poussait devant le feu la bouillotte afin de faire ses ablutions à l'eau chaude, car elle était frileuse. C'était une de ces grosses bonnes bouillottes ventripotentes, goiffreuses, ou cabossées par un long usage, vieille servante tassée, mais souriante, et honorée de servir, telles enfin que l'on n'en voit plus aujourd'hui, que tout devient dur, étriqué, anguleux et chagrin. Et cette bouillotte chantait délicieusement sur les cendres. Mademoiselle de Quinconas en aimait la musique, tour à tour plaintive et ardente, mélancolique ainsi qu'une voix entendue le soir dans la campagne, et gaillarde tout à coup, frétillante, rieuse, d'une fantaisie sans cesse renouvelée. Elle savait, au moment voulu, courir au secours de la chanteuse suffoquée par un vomissement qui lui soulevait le vert couvercle, inondait le foyer et suscitait des nuages de fumée. Elle se déshabillait lentement devant les flammes d'un grand feu de hêtre. À cette heure-là, qu'il faisait bon s'étirer une fois dévêtue, dans la pénombre à peine troublée par une grande flamme téméraire qui se cassait rapidement le cou à vouloir s'élever trop haut. Mademoiselle de Quinconas se mettait alors volontiers à cheval sur une chaise qu'elle approchait du feu le plus possible. Et les yeux larges ouverts sur quelques charbons scintillants, méditant sur le sort des pauvres gouvernantes solitaires, elle envoyait sa main à la promenade sur les petits talus de ses chevilles et sur les collines bombées de ses belles et cuisses qui rôdissaient agréablement. Et lorsque le chant de la bouillotte s'exalte, tel est parfois le plaisir de la bonne Quinconas, qu'elle ne retient pas un soupir suffisant à réveiller Jacquette. Et l'enfant, un œil entrouvert, aperçoit la gouvernante chevauchant une monture fantastique dans un pays incendié, l'enfer peut-être, ou le chemin du sabbat, comme dit Marie Coquelière. Alors Jacquette se demande ce qu'elle dira à Pomme d'Api, si Pomme d'Api, par hasard, désire savoir pourquoi la gouvernante se fait cuire ainsi le soir au lieu de se coucher comme les poupées et les petites filles. « Pomme d'Api, lui dira-t-elle, mademoiselle de Quinconas expie par ce moyen les péchés de gourmandise qu'elle a commis dans la journée et qui lui font, comme tu le vois, prendre tant d'embonpoint par derrière. » Pomme d'Api satisfaite, Jacquette reprend son sommeil interrompu, Et la gouvernante, ayant posé sa chemise de nuit, vient voir si la fillette repose chastement les deux mains sur la courte pointe, puis elle se glisse dans son lit et s'endort. Vous jugeriez le gynécée garanti pour 12 bonnes heures au moins, contre tout dommage. Eh bien, veuillez faire minuit, prêter l'oreille. Une petite porte a été poussée furtivement, et quelqu'un, pieds nus, sans lumière, est entré. La marquise seule, pourtant, possède la clé de cette ouverture. Elle la remet le matin à Marie Coquelière, qui la lui rend ponctuellement chaque soir. Mais avant de vous nommer celui qui vient ainsi saccager la paix virginale, il nous faut retourner en arrière vers des personnages que nous avons délaissés depuis plusieurs chapitres, et vous verrez comment cette incursion, qui semble nous éloigner du gynécée, au contraire nous y ramène. Peut-être se souvient-on de la manière toute fortuite dont Ninon, devant la maîtresse de Château-Bedeau, fraîchement ligotée, emmailloté comme un panari. Petit à petit, le fait de presser contre elle la nuit et même le jour ce gros Château-Bedeau fut pour elle un besoin aussi impérieux que celui de boire et de manger. Elle recevait donc son page dans sa chambre après que s'en était assuré que le marquis était couché. Et de ceci, voilà comment on obtenait la certitude. Foulque allait volontiers au lit de bonne heure. Sa fenêtre s'illuminait soudain et, du dehors, on discernait la couronne du baldaquin, le chef d'un portrait de famille, un panneau peint en blanc. L'ombre du marquis, allongée démesurément, était portée sur ce panneau, faisant un jeu d'ombre chinoise, et on la voyait s'exhausser, augmentée de 2 cornes, bientôt d'une tiare pointue, et faite d'un beau bonnet de coton, tel quel la noire figure géante avisait à un coffre d'aspect imposant et en tirait une urne gonflée, au moins en apparence, à contenir le cuvée de 3 arpents de vigne, et la soutenait à mi-corps dans cette attitude expectative propre au pichet que l'on présente à la chantepleur. Tout devenait inerte. On eut eu le temps de réciter son pater. Une chauve-souris coupait parfois le spectacle de son vol de papier flambé. Enfin, la scène offrait un attrait nouveau. Une ligne d'ombre vigoureuse, durable projecteur d'un projectile énigmatique, joignait à l'urne la fontaine et, pour peu que la croisée fût entr'ouverte, l'oreille croyait reconnaître le gazouillis des gouttières par une bonne pluie d'équinoxe. Lorsque le marquis, ayant joué sa pantomime, avait reconfié l'urne au meuble devant elle béant comme sa destinée, chacun avait l'assurance que Foulque ne ferait plus un pas qui le pût éloigner de ce dépôt, et qu'il se coucherait, s'endormirait et ronflerait la contre en vertu de quelque loi supérieure à sa volonté ou conforme à ses ubis. Une habitude singulière, la vérité, mais héritée de ses pères. Château-Bedeau s'ébaudissait royalement à voir le marquis coucher le nez sur son pot de chambre, tandis qu'il respirait, lui, le souffle agréable de Ninon. Or, il arriva qu'une nuit, Foulque, qui s'était régulièrement couché comme à l'ordinaire, se leva, ôta son bonnet, prit du linge neuf, un chandelier, sa robe de chambre, et marcha droit d'un air gaillard à l'appartement de sa femme. Et arrivé, il frappa. Ninon reconnut le doigt de son mari et fut péniblement surprise, parce qu'il lui répugnait de savoir le marquis si proche d'elle dans le moment même où son amant l'enlaçait avec ardeur. Le pire fut que Château-Bedeau, qui n'était qu'un bravache, perdit du coup toute contenance. Il allait et venait tout nu dans la chambre, essayant d'ouvrir pour s'y cacher les placards au moyen d'une clé qu'il avait trouvée sur la table. Foulque, on le sait, était peu enclin aux soupçons, nullement porté à se chauffer le sang. Mais lorsqu'une démangeaison le tenait, il avait la stabilité d'un roc de Bretagne. Ce n'est pas lui qui s'inquiétait pour l'heure de savoir si sa femme recevait un amant dans son lit. Mais il avait l'envie fort nette d'occuper la place qui lui était due dans le lit de sa femme. Il s'armait de patience en attendant que sa femme lui ouvrit. Ninon s'épuisait à faire à Château-Benoît des signes expressifs pour qu'il poussât tout bonnement l'autre porte et décampât. Château-Benoît préférait se tapir dans l'armoire et reparaître quand Ninon se serait expliqué avec son époux. C'était pour ne point sembler céder sa place. Mais quand Ninon fut mine de sauter du lit et d'aller ouvrir au marquis, le bélitre détala si lâchement qu'il en oublia de prendre ses hardes et de restituer la clé qu'il tenait à la main. Château-Benoît n'avait pas fait trois pas hors de la chambre de Ninon qu'il était résolu à aller jouer à Mademoiselle de Quinconas un tour plus fameux qu'aucun de ceux qu'il avait perpétré jusqu'alors. Il venait de reconnaître que la clé qu'il possédait était celle du gynécée, et c'est là qu'il courut. Il n'eut pas de peine à se diriger à tâtons jusqu'à la petite porte qu'il avait vue percée par les maçons. Il introduisit la clé et entra, rampant le long de la muraille, butant contre le coffre à bois, le prie-dieu, le pupitre, inspirant à la gouvernante engourdie par le premier sommeil des cauchemars épouvantables. Deux petites lueurs demeuraient dans le foyer, comparables à des vers luisants. Elles n'éclairaient aucun objet. Le pas du jeune coquin, lourdeau et râblé, faisait osciller la cuillère dans le verre d'eau. Tout à coup, la belle Zébute, qui dormait là sur un fauteuil, escalada le dossier d'un tel bond que le meuble tomba en ébranlant tout l'appartement. Mademoiselle de Quinconas s'éveilla en portant la main à son cœur qui battait le tocsin. Et au milieu du silence, aussitôt rétabli, elle n'entendait plus que ses coups précipités de tambour au travers d'un épais coussinet. Elle se dressa pour faire de la lumière, mais le flambeau, une fois allumé, voilà que la pauvre fille avait plus peur qu'auparavant, et elle souhaitait de n'y plus voir dans la crainte de découvrir quelque bête apocalyptique, un assassin vulgaire, ou le satyre, terreur des vierges. Château-Benoît, nu comme un ver, la regardait. La gouvernante hasarda dans la pénombre un œil tremblant. Elle poussa un cri de petit chien écrasé, retomba sur le dos et s'évanouit instantanément. Jacquette, elle, ne fut réveillée que par le cri de sa gouvernante. Elle aperçut en pleine clarté le page, semblable à Adam. Elle le remit aussitôt, malgré cette particularité surprenante, parce qu'elle ne s'en émouvait nullement et parce qu'elle conservait toute sa présence d'esprit. Elle demanda tout simplement « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Château-Benoît ?» Puis elle cacha sa fille pomme d'api sous les draps. Château-Benoît n'avait point vu Jacquette. En entendant sa voix innocente, ce mal appris connut quelque chose de plus fort que son impudique forfanterie, à savoir la loi naturelle qui commande à l'homme de ménager la jeunesse. Et il fut en proie à un étrange malaise. Il couvrit rapidement d'un petit ouvrage de laine qui se trouvait là sous sa main, ce qu'il put couvrir de son corps embarrassant. Et il s'en alla plus vite qu'il n'était venu, plus penaud qu'un coq déplumé, tenant sur son derrière l'ouvrage de laine. Et Jacquette, fort peu émue, de lui crier « Et là, monsieur, mon travail au crochet, je vous prie !» Dès qu'il fut dehors, Jacquel se rendormit. Mademoiselle de Quinconnas demeura je ne sais combien de temps sans connaissance. Quand elle s'éveilla, elle faisait plus grand jour que de coutume, parce que Marie Coquelière, n'ayant pas trouvé la clé du gynécée chez la marquise, n'avait pu ouvrir et apporter le déjeuner de ses demoiselles. Elle pousse la porte, elle est dans l'antichambre. Mais elle n'a pas le loisir de repousser la porte. Son amant chouri, sans cesse sur ses pas, a pénétré derrière elle. Elle s'affaisse sur le premier siège, car Chouri, en vérité, lui a fait peur. Elle croit qu'elle va défaillir. Son amant, aux abois, cherche secours. Il ouvre une porte. C'est la salle d'étude. Elle est déserte. Il y entraîne sa forte maîtresse et, l'ayant déposée sur une chaise près de la fenêtre, il délace amoureusement son abondant corsage. Elle revient à la vie, se laisse cajoler, tourne et retourne de gros yeux langoureux. Cette femme qui va vieillir demain, que n'oublie-t-elle pas, songez-y, sous le charme magique des avant-dernières caresses? Son regard va de son amant au petit parterre bien dessiné, bien planté, à l'allée des fontaines, au bon vieux pigeonnier. Ce n'est que peu à peu qu'elle songe à la qualité de l'endroit où elle est. On entend dans une pièce voisine qui sert d'oratoire la voix de Jacquette et celle de monsieur le curé qui lui serine son catéchisme. C'est là le gynécée, oh, quel dommage! Que ces appartements sont favorables à l'amour! Quelle tranquillité on y goûte! Chouri fait observer que la poussière envahit les meubles, que les toiles d'araignée doublent les tentures de leur tissu léger. En effet, depuis que l'on voit poindre à l'horizon le jour de la première communion, la salle d'étude est délaissée en faveur de l'oratoire. Et qui sait? Peut-être ne vient-il plus personne en cette belle pièce. Et madame de Château-Bedeau se représente les difficultés de la vie dans la partie prétendue libre du château, où le pauvre Chouri est épié sans répit par sa femme, par son frère maladroit et par la marquise, où elle-même a quelque répugnance à s'exhiber en galante posture aux yeux de son fils, enfin où chacun, portant le fardeau de ses fredaines, marche en louvoyant comme un renard le long du poulailler. « Chouri, dit-elle, si nous revenions ici !» Elle garda donc la clé et revint chaque jour ici, à la même heure avec monsieur de la Vallée Chouri, qui, efflanqué par un rude service d'amant, trouvait ici un adjuvant puant, bien un peu l'apothicaire, mais efficace en somme. Ne pratiquait-il pas, se gynécée, une sorte de viol d'un lieu saint, rendu plus sensible par le murmure de voix de la fillette et du vieux prêtre, dans l'oratoire voisin, et par la présence parfois de la satanique Belzébuth qui dardait dans un coin sombre ses fixes prunelles de soufre ou qui s'agitait tout à coup d'un mouvement de danse barbare, diabolique divertissement. Moins de 8 jours après, les deux amants, jamais troublés, tenaient cette pièce du gynécée pour un pavillon à eux. Ils y apportaient les friandises, y croquaient des gâteaux secs et faisait du pupitre de mademoiselle de Quinconnas une cave à liqueur à vin varié. Chouri, ayant dérobé à l'office un petit plumeau, commençait à épousseter par-ci par-là, à nettoyer les miroirs tout au moins, afin que sa maîtresse pût, en se retirant, mettre de l'ordre dans sa toilette et dans sa chevelure. Tout se passait au gynécée avec la régularité des couvents. Monsieur le curé arrivait au château sur les 4 heures. Un petit bonjour à la marquise quand il la rencontrait, un brin de causette avec celui-là avant 5 heures. Invariablement, la leçon était commencée dans l'oratoire. Elle se poursuivait jusqu'à 6h30 précise. À 6h30, la marquise entrait à l'oratoire, prenait congé du bon curé et accompagnait sa fille dans la salle à manger du gynécée, où le dîner de cette demoiselle était servi. Elle s'informait du menu, chatouillait d'un doigt le cou de Jaquette et disait bonsoir. Mademoiselle de Quinconas assistait à la leçon ainsi qu'aux pommes d'api et, du moins en principe, la belle Zébute. Quand le laps de temps sujet suffisant pour instruire, sans le fatiguer, le cerveau de la jeune catéchumène s'était écoulé, monsieur le curé tolérait qu'une aimable détente succédât à l'attention soutenue, et il prolongeait sa causerie édifiante, la partie dogmatique de son enseignement. Quelques sauts étaient même permis à Jaquette, dont le tempérament enjoué s'accommodait mal des longues stations, et en profitait pour exécuter maintes cabrioles avec la belle Zébute. L'abbé Puce contemplait ses ébats avec indulgence et les encourageait volontiers de sa cordiale hilarité, encore qu'il lui arriva souvent de se mettre à crapeton, sa soutane tordue entre les deux genoux, afin de saisir plus prestement la chatte par la queue au passage. Puis il se relevait, la joue semblable à une tranche de bœuf, et s'entretenait avec le gouvernante, soit de Monseigneur l'évêque d'Angers, vénérable parent de celle-ci, soit de la satisfaction que donnait à son cœur l'édifiante préparation à la communion de Mademoiselle de Chamarante. Il louait Mademoiselle de Quinconas de sa collaboration intelligente et zélée, et, parcourant de son honnête regard les murs blanchis du petit oratoire, les pieuses images qui l'ornaient, l'auditoire rare et charmant, composé, premièrement, disait-il, d'une sainte gouvernante qui portera au pied de Dieu le mérite d'avoir soustrait une enfant aux embûches du siècle, deuxièmement, de cet enfant, tabernacle de toutes les grâces, héritière des plus beaux biens de ce monde et candidate aux ineffables richesses de l'autre, troisièmement, de Mademoiselle Pomme d'Api, exemple de sagesse et de modération dans l'exubérance de la santé et de la belle mine. Quatrièmement, enfin, de cette chère bête digne joujou de l'homme et à qui ne manque qu'une âme pour être notre sœur en gentillesse et en agilité, il élevait son âme vers le ciel et lui offrait avec une touchante sincérité son pur contentement. Il arriva que Jaquette, le moment venu de cette courte récréation, ne trouva plus la belle Zébute à son poste ordinaire et la chercha en vain dans les coins et recoins de l'oratoire. Elle s'en affligeait et elle trépignait de l'envie de découvrir par quelle issue la chatte noire avait pu ainsi lui fausser compagnie. Monsieur le curé, lui aussi, regrettait la perte de la belle Zébute. Alors voilà donc Jaquette à quatre pattes, monsieur le curé à genoux, Mademoiselle de Quinconas elle-même, ployant sa vaste et belle taille, balayant le sol de cette pesante poitrine qui avait troublé le marquis de Chamarante et qui avait failli plus d'une fois, sous les chastes regards du vieux prêtre, s'échapper du corsage ouvert à la mode du temps. On remue le prie-dieu, les chaises, le confessionnal rococo, joli comme une pièce de nougat. On dérange la statue des saints, on met en lambeau l'étoile d'araignée. Et tout à coup, Jaquette, à plat ventre, contre un vieux panneau de boiserie, semble attentive ou pétrifiée, comme un chien à l'arrêt. Que se passe-t-il? Elle a trouvé. Mademoiselle de Quinconas se relève en tenant sa gorge à deux mains. Le bon curé ajuste ses lunettes et, désignant du doigt la fillette qui a été la plus heureuse à la chasse, il rit de tout son cœur. Ce qu'avait trouvé Jaquette était une chatière, trou rond dissimulé par un clapet mobile ouvrant de ci de là au gré des allées et venues de l'animal. Lorsque Jaquette eut pesé le doigt sur cette porte secrète, elle vit, droit devant elle, au beau milieu de la salle d'études, la belle Zébute qui la regardait de ses deux yeux jaunes, ayant l'oreille fine et sensible au plus menu bruit. puis quelque chose de compact intercepta l'image de la chatte noire. Puis celle-ci reparut, léchant goulûment certains morceaux de pâtisserie d'où bavait une crème appétissante. Puis elle disparut de nouveau. Puis Jacquette la revit qui se pourléchait les babines avec une petite langue rose et friante. Des miettes de pâte gluantes lui demeuraient prises entre quatre coins de moustache. Jacquette, au comble de la joie, annonçait à haute voix les détails du spectacle. Mais elle était curieuse de savoir la nature de l'écran opaque qui lui dérobait, à intervalles presque réguliers, la vue de cette gourmande de Belzébuth. Peu à peu, son œil discerna un soulier, un grand soulier d'homme, et côte à côte un soulier plus petit et de satin blanc, à ne pouvoir s'y méprendre. Le grand soulier était emmanché au bout d'une patte de coq, et le soulier de satin chaussait le pied d'une personne fort prospère. Nulle joie ne se pouvait comparer à celle qui désopilait le bon curé lorsque Jacquette disait qu'elle voyait un pied noir et un pied blanc dans la salle d'études. Il en toussait, mouchait, crachait, il pliait en deux sa bedaine. Il communiquait sa gaieté à la gouvernante qui, penchée sur le corps de Jacquette, la main étalée à l'échancrure du corsage, interrogeait elle-même. « Et après, mademoiselle, que voyez-vous? Qui voyez-vous? Qui donc aura laissé un pied noir et un pied blanc dans la salle d'études avec des friandises ?» Et l'abbé Puce, reprenant ses sens, commençait de rappeler quelques tercets, quelques textes des livres saints touchant les prodiges et visions. En effet, il ne pouvait y avoir au gynécée si sévèrement clos ni pied noir, ni pied blanc, ni pâtisserie. Et cette tendre enfant était abusée par une plaisante imagination proportionnée à son âge. Mais Jacquette se releva d'elle-même et s'en alla dans un coin de l'oratoire en faisant la moue, comme s'il lui était arrivé quelque chose de désagréable. Mademoiselle de Quinconas fut sur le point de s'allonger sur le sol pour mettre l'œil à la chatière. Monsieur l'abbé Puce ne le souffrit pas. « Permettez, mademoiselle, dit-il, permettez !» Et voilà monsieur le curé à quatre pattes, fermant un œil, ouvrant l'autre, se souvenant d'avoir été gamin. Il a ses besicles, il distingue à merveille. Mais, Seigneur Dieu, il ne peut en croire ses sens et on le voit se relever d'un bond. Or, ne se possède-t-il plus, ou bien qu'a-t-il pu voir pour qu'un juron s'échappe de sa bouche sainte? Bon Dieu de bois! S'est écrié le vénérable abbé Puce. Il retombe sur un siège, il s'essuie le front du revers de la main, puis il se frictionne vigoureusement les yeux comme pour en chasser quelque image immonde. Enfin, il ne songe plus qu'à la petite catéchumène qu'il a vue, ce que lui-même a vu. Il se précipite vers elle, il l'entoure de ses bras, il lui baise le front, il invoque du plus haut du ciel la grâce d'un divin oubli pour cette jeune pensée. Il voudrait qu'une source clarifiée jaillît de quelque part afin d'y laver sa petite amie à grande eau. Il a tant de chagrin, le digne homme. Il en pleure et, à défaut de source miraculeuse, ses grosses larmes se répandent sur les cheveux blonds de Jacquette. Mais dans le tourbillon même de cette tempête spirituelle, Jacquette, dont les soucis sont tout autres, dit simplement « La Belzébuth a de la chance, elle a mangé des gâteaux, c'est ce que je serais l'obtenait de l'essentiel en l'affaire. » Quant à mademoiselle de Quinconas, elle était sur le gris. D'abord, elle avait la fringale de regarder par la chatière. Elle osait interroger monsieur le curé sur ce qu'il avait vu. Et monsieur le curé, d'ailleurs, n'était que lamentation qu'exorcisme. En outre, fallait-il pas faire cesser la cause du scandale, quelle qu'elle fût? Ah! Que la gouvernante eût été bien aise qu'on lui ordonnât d'aller rétablir l'ordre dans la salle d'études. Avec cela, il se fait tard. L'heure a sonné. Et la marquise entre dans l'oratoire avant qu'on ait eu le temps de prendre un parti, sauf s'il est opportun de lui dire ou de lui cacher. Elle trouve la gouvernante affolée. Elle voit Jacquette essuyer tranquillement avec son mouchoir les larmes que monsieur le curé répand. Elle surprend le pauvre prêtre encore en feu, levant les mains au ciel, ou les abaissant pour désigner du doigt dans la boiserie le trou dérobé de la chatière. Ninon, interdite, ouvre les yeux sans rien comprendre. Tout à coup, le clapet est soulevé comme un couvercle de tabatière, et les deux étincelles de la belle zébute illuminent le trou ténébreux. La chatte tout entière apparaît, semblant rire en sa frimousse de négrillon. La marquise est prête à s'amuser de la chose, mais le curé d'un geste l'arrête et il dit « Madame, cet animal est l'image du démon qui est introduit dans le Saint-Asile, selon un usage qui lui est familier et que Dieu permet, car ses desseins sont insondables. Satan est notre hôte, madame la marquise. Il rampe et s'agite immodérément de l'autre côté de cette cloison. » Ninon le croit devenu fou. Elle va tout droit à la porte de la salle d'études, veut l'ouvrir, l'ébranle, mais en vain, un verrou de l'intérieur a été poussé. Mais une autre porte communique avec l'antichambre Licourt, même obstacle. Ninon, en rage d'avoir fait d'inutiles frais de clôture et d'aménagement, si le lieu préparé pour le recueillement de sa fille est violé. Par ses propres moyens, elle tente de défoncer la porte. À coups de talon, du coude et du genou, elle frappe, elle crie, elle piétine, elle appelle des renforts. On l'a entendu, on vient. Voici son mari qui la suit maintenant partout et de près, comme il suivait jadis la gouvernante. Voici Château-Bedeau, voici Balitourne, l'empressé, toujours prompt à se rendre serviable. Les maladroits sont parfois les plus braves. C'est celui-ci qui donne l'assaut le premier. Il fait bélier de ses reins. Un grand craquement en résulte. Le verrou a sauté. La porte de sept un peu trop tôt. Malitourne tombe sur son séant. On l'enjambe, on se rue dans la pièce. Et qui voit-on? Personne, mais les débris d'une collation. Ah si, regardez à la fenêtre. Qu'est-ce là? Un vol d'outarde, une armoire à chiffon, le panier de la blanchisseuse? Non, une femme qui a sauté par le balcon. Au balcon, on se porte. Ciel, un amas de chair dans une corbeille de dentelle. Un bouquet géant jeté des nues et qui va s'empaler, dirait-on, à un long pied fourchu qu'on voit fiché en bas au fond de la douve desséchée. Qu'est-ce encore? C'est madame de Château-Bedeau, tout linge dehors, qui va rejoindre son chouri par la route aérienne, fréquentée des classiques amants. Ceux-ci, toutefois, sont d'ordinaire plus agiles. On croit sans doute que l'accident va tourner à la confusion de la grosse maman amoureuse. Elle l'eût mérité, certes, car franchement, à l'âge qu'elle a, et que je veux dire, il sied d'avoir quelque continence. Mais je ne sais si celui qui a réglé les affaires du monde a la même pensée que moi, et je m'incline au contraire à le croire disposé à prendre obstinément le parti de l'amour. Du haut de son siège, il discerne peu le ridicule, il échappe au dégoût. Et pour peu qu'il soupçonne qu'un couple a quelque chance de contribuer à cette multiplication des êtres qui est une règle tournée chez lui à la manie, il étend sur ce couple sa main. Du pouce et de l'index, il empresse les éléments et du restant de ses doigts couvre l'ouvrage comme vous y prenez, par exemple, pour faire du feu contre le vent. Madame de Château-Bedeau eut la chance, en l'occasion, de se casser la cuisse. Opportune cassure! Qui dirait qu'elle fut providentielle? Les personnes qui regardaient tomber par la fenêtre cette grande quantité de chair et qui se voulaient scandaliser d'un délit si flagrant éprouvèrent une soudaine virevolte dans leurs sentiments quand ils purent vérifier que le double objet scandaleux demeurait au fond du fossé, aussi inerte qu'un pot-à-fleurs chu d'une lucarne de la tour. Nul ne songea plus qu'à voler au secours des blessés. Les deux complices se métamorphosaient en victimes. Ninon elle-même, si courroucée d'abord, ne fut que compassion tout à coup, et elle soigna, dorlota, pansa Madame de Château-Bedeau, ni plus ni moins que peu de temps auparavant son fils. Quant à Choury, qui n'avait aucun mal, on lui sugérait précisément de n'ajouter pas un trouble nouveau, et certains le félicitèrent. Il sourit tout guilleret à sa femme, qui n'osa pas lui tenir rigueur, parce qu'un moment on l'avait cru mort. Et monsieur le curé, qui voulait à toute force administrer les coupables, dut s'en retourner au presbytère sans avoir accompli cette fonction. Et par une malice étrange du sort des choses d'ici-bas, c'était lui, monsieur le curé, le plus penaud, en s'en allant chez lui, car il avait fait grand bruit d'une affaire qui semblait se terminer fort paisiblement et, pour ainsi dire, à la satisfaction de tous.